À toutes et à tous, je suis content d'être encore avec vous ce matin pour vous partager ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Je vous propose juste avant cette prédication de prier, et notamment de remettre les enfants qui sont partis entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que oui, nous le croyons, elle est la vérité. Et Seigneur, permets-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin, que nous puissions tous et toutes repartir avec quelque chose de toi. Je te remets aussi le temps que les enfants vont vivre avec leur monitrice, qu'ils puissent vraiment aussi apprendre de toi, apprendre à te connaître mieux comme nous espérons pouvoir te connaître encore mieux, jour après jour. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si je vous dis ce matin... Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés, de Babaorum, Aquarium, Laodanum et Petit Bonhomme. J'imagine que vous avez reconnu la fameuse et assez culte phrase d'introduction des bandes dessinées d'Astérix. Les aventures d'un village gaulois qui résiste face à l'envahisseur romain et qui s'en sort à chaque fois grâce à la potion magique du druide Panoramix. Mais comme vous le savez, ceux qui ont eu l'occasion de lire les bandes dessinées ou de voir les divers films et dessins animés qui sont sortis. Souvent, dans cet univers, tout n'est pas rose pour le village gaulois. Souvent, même, les discussions se terminent ainsi. Par un certain nombre de coups donnés et de coups reçus par une jolie baston, comme on peut le dire par chez moi. Oui, pour ceux qui étaient là au RPO la semaine dernière, on a parlé des Schtroumpfs. On continue dans l'univers de la BD ce matin en parlant d'Astérix. Et souvent, ces problèmes de bagarre, tout cela est causé par des problèmes de communication, des petites phrases dites telles que « il est pas frais ton poisson », entraînant pour le poissonnier un certain nombre de blessures, de colère, une rancœur vive, quelque chose qui va se traduire en acte par un certain nombre de coups. Car il est difficile pour le poissonnier de pardonner. Ah, qu'il est difficile même pour nous de pardonner, de ne pas traduire nos émotions, notre rancœur en actes violents, comme dans ce petit village gaulois. Il en est de même, bah oui, pour nous, dans l'Église, qui parfois peut ressembler à un petit village d'irréductibles chrétiens, ou même, ici à Gobert, à un village ou à un temple, ou à une communauté d'irréductibles protestants au milieu de la Beauce. Pour moi, en tout cas, c'est certain, il n'est pas toujours facile de pardonner. Et c'est le thème que je vous propose d'aborder ce matin, en nous posant la question de pourquoi pardonner. Et qu'est-ce que ça change vraiment de pardonner? Et on sait que la Bible nous parle souvent de cette notion de pardon entre les hommes, mais aussi de pardon au sein de la communauté chrétienne. Donc je vous propose de lire ce matin Matthieu 18, les versets 21 à 35. Donc Matthieu 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda: « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irais-je jusqu'à 7 fois ?»« Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. » En effet, il en est de même, il en est du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'or. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître lui ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosterna devant lui, supplia : « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service, qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant : « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui répondit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le jeter en prison, en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors, celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, le maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. Jusqu'ici notre lecture. En voilà un sacré texte pour parler du pardon. Nous sommes dans la conclusion d'une partie de l'évangile selon Matthieu, où Jésus en fait se trouve avec les disciples et les enseigne sur le sujet de la communauté qu'ils forment, sur ce qui deviendra plus tard l'Église. Pierre va poser une question à Jésus qui peut sembler anodine, mais on se rend compte par notre récit qu'elle a toute son importance. Il demande à Jésus : « Combien de fois dois-je pardonner mon frère qui m'aurait fait du mal ?» Autrement dit, Pierre s'interroge sur les limites à donner au pardon. Jusqu'à quel point est-ce qu'il peut pardonner dans la communauté qu'il forme avec les autres disciples ? En posant cette question, Pierre sent déjà que sa vision des choses a évolué au contact de Jésus. Il suggère de pardonner 7 fois, pensant proposer quelque chose de nouveau. Il faut savoir que la tradition des rabbins, la tradition juive de l'époque, disait qu'il fallait pardonner jusqu'à 3 fois maximum. Après la 4e, on arrêtait de pardonner la personne. Et en plus, vous me direz, 7 fois, c'est pas anodin. Utiliser le chiffre 7, c'est pas anodin. C'est quand même le chiffre de la plénitude. Donc Pierre devait se dire, en pardonnant 7 fois, mon pardon allait être complet pour mon frère ou ma sœur. Mais Jésus, dans notre texte, réagit et répond à Pierre. Et il veut lui montrer qu'il ne va pas assez loin, que le nombre de fois où il pardonne n'est pas ce qui est le plus important. Les disciples doivent continuer à pardonner, sans compter 77 fois cette fois. Un nombre tellement grand que, en fait, c'est l'idée, pardonne toujours. Le pardon n'a pas de limite au sein de la communauté des disciples, au sein de l'Église. Et j'imagine bien la réaction des disciples, mais même notre réaction aujourd'hui en entendant ça, qui devait se dire, mais on n'arrivera jamais à pardonner autant, c'est trop dur. Et Jésus, par la parabole qu'il va leur raconter, va leur expliquer cette exigence, pourquoi il a cette exigence. Et cette parabole, c'est celle qu'on appelle souvent la parabole du serviteur méchant ou du serviteur impitoyable. Une histoire qui se déroule en 3 temps, en 3 scènes, où on peut découvrir plusieurs relations. Celle du roi avec son serviteur, celle du serviteur avec l'autre serviteur qui lui doit, qui a une dette envers lui, et celle des serviteurs témoins finalement, qui vont voir l'agissement du serviteur qui a été gracié par le roi. Et je pense que ce qui est intéressant, mais comme souvent avec les paraboles, et ça peut nous suivre dans toute notre méditation de ce matin, c'est de se demander à la place de quel personnage est-ce que je me mets. Est-ce que je me mets à la place du roi? Est-ce que je me mets à la place du serviteur qui est gracié? Est-ce que je me mets à la place du serviteur qui demande à être gracié et qui va se retrouver en prison? Ou est-ce que je me mets à la place des témoins de la scène? En tout cas, tout cela va être important pour nous approprier le message, nous approprier l'histoire qui est dans ce passage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par l'histoire qu'il raconte, Jésus veut amener les disciples, comme souvent d'ailleurs, à changer de perspective sur les choses, à voir les choses dans un sens différent. Dans sa question, et par sa question, Pierre se positionnait en étant celui qui pardonne. Mais si on regarde bien dans la parabole que Jésus raconte, ce n'est pas le serviteur qui pardonne. Celui qui pardonne, celui qui rembourse la dette de son serviteur, c'est le roi. Le roi qui peut être assimilé à Dieu. Jésus veut dire que pour ceux qui ont rencontré le royaume de Dieu, ceux qui ont rencontré Jésus, le pardon est comme l'acte de ce roi qui décide de libérer le serviteur de sa dette. Cette dette est tellement grande, il parlait de 60 millions de pièces d'or. C'est l'équivalent du revenu annuel, pour donner une petite idée de ce que ça représente à l'époque, c'est le revenu annuel de la Galilée, de la Judée, de la Samarie et de l'Idumée réunies. Donc des régions, des nations, des pays qui sont déjà bien présentes. Or, comme tout dans cette histoire a un parallèle, cette dette est l'équivalent du péché. Elle est ce que nous, nous devons à Dieu à cause de toutes les fois où nous nous détournons de lui, toutes les fois où je ne fais pas sa volonté, toutes les fois où l'orgueil me prend, toutes les fois où je peux ressentir de la colère contre un ami, de la jalousie envers mon frère ou ma sœur, ou même de la convoitise par rapport à ce que l'autre a. La liste pourrait être encore grande. Tant de choses peuvent me faire manquer le but, qui est ma relation à Dieu. Tant de choses peuvent m'éloigner de Dieu. Et comme le serviteur qui avait une dette si grande, je me rends bien compte que quand j'y réfléchis, il m'est impossible de rembourser cette dette par moi-même, tout comme c'était le cas du serviteur qui, logiquement, ne pouvait pas rembourser la dette qu'il avait envers le roi. Même le fait pour le serviteur qu'il devienne esclave, lui et sa famille, que eux tous deviennent esclaves du roi et qu'ils vendent tous leurs biens ne suffit pas. Même le fait que moi, je fasse tous les efforts du monde pour m'en sortir, pour plaire à Dieu, tout ça ne suffirait pas. Pourtant, dans notre texte, le serviteur, étonnamment, plutôt que de dire « je ne pourrai jamais rembourser », demande du temps au roi pour le rembourser. « Sois patient avec moi et je te rembourserai tout. » En lisant le texte, on pourrait se dire, et en ayant la vision de cette somme qu'il doit, on pourrait se dire « mais quelle demande naïve en fait !» On pourrait vite juger ce serviteur. Mais si on fait le parallèle avec nous, ce matin, n'est-ce pas un peu comme nous quand parfois je me dis que je vais faire un peu plus d'efforts, que je vais aller à l'église, que je vais peut-être participer au maximum d'études bibliques, que je vais lire plus ma Bible, plus prier? Est-ce que c'est pas ça quand je me sens coupable envers Dieu et que je me dis je vais faire ça pour, entre guillemets, me racheter? La question que ce début de texte nous pose, c'est quelle est ma disposition de cœur quand je me dis qu'il faut que je fasse des efforts pour Dieu, dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je le fais simplement pour la gloire de Dieu, pour sa gloire? Est-ce que je le fais par sentiment de culpabilité devant ce Dieu envers lequel je me sens redevable? Ou est-ce que je le fais encore par orgueil, en me disant que Ben, je peux me sauver par moi-même. Jésus, en tout cas dans notre texte de ce matin, nous rappelle que le pardon, c'est ce qui constitue la grâce de Dieu. C'est le roi lui-même qui a décidé par compassion, par pitié pour le serviteur, de ne pas lui faire payer sa dette. Ce n'est pas une question d'effort que le serviteur aurait fait, c'est le roi qui décide par lui-même. Et c'est là où Jésus change la pensée de Pierre. Car avant de penser à pardonner son prochain, c'est Pierre et c'est nous-mêmes, c'est toi, c'est moi, qui avons besoin d'être pardonnés en premier. Pardonnés de cette dette qui est sur nous, impossible à rembourser. Pardonnés par Dieu, ce roi qui est le seul à pouvoir le faire. Ce roi qui, comme nous le savons dans l'Évangile, dans sa grâce et sa compassion pour nous, est descendu sur cette terre en Jésus pour se donner à la croix et prendre sur lui toutes nos fautes. Est-ce que nous nous rendons compte encore ce matin de cette grâce qui nous est offerte? Alors même que nos péchés s'accumulent depuis des années, chaque jour, peut-être même à chaque heure, et qu'ils ne pourront sûrement jamais être payés, Dieu est venu sur terre pour nous dire « Je te libère de cette dette ». Mais cette grâce, elle n'est pas seulement passive, elle n'est pas seulement passive. La suite du texte est l'attitude du serviteur face à celui qui s'est endetté envers lui, nous le montre. J'imagine comme moi, et comme les serviteurs qui ont été témoins de la scène, ce qu'il fait vous choque et vous dérange, le fait qu'il ne veuille pas rembourser, alors qu'il a été gracié, qu'il ne veuille pas rembourser son compagnon, vous choque. Comment lui qui s'est fait rembourser une dette impossible quasiment à restituer, peut-il ne pas faire grâce à son compagnon qui a une dette qui semble tellement infime à côté de celle qu'il a été remboursée, au point même de jeter en prison son compagnon? C'est choquant quand même quand on y réfléchit. Et de la même manière, dans la dernière scène, quand le roi va apprendre la nouvelle, on se rend bien compte que le roi va être choqué de ce qu'il apprend, de ce qu'il s'est passé, et va même revenir sur sa décision de gracier son serviteur. Cette réaction arrive car par son action, le roi a sorti le monde qui l'entourait de la logique habituelle de endettement-remboursement. Dans la logique habituelle, et je pense notamment à Gilles qui travaille dans la banque, qui doit le savoir que quand on s'endette, on est censé rembourser. Ben là, le roi, par ce qu'il fait, il nous fait passer à une logique d'endettement grâce, une logique totalement nouvelle. Et la conséquence du pardon de Dieu devient alors le pardon pour nos frères et sœurs, le pardon qu'on est amené à offrir pour nos frères et sœurs. Par cette parabole, Jésus nous montre que le pardon de Dieu doit avoir des répercussions dans nos vies et dans notre Église. Ainsi, il ne suffit pas, comme le serviteur méchant, de prétendre être pardonné. Tout ça pour prouver ensuite par nos actes que nos vies n'ont pas été changées. Nos vies doivent être en accord avec cette grâce de Dieu. Le pardon de Dieu est dynamique, il vient changer la vie. Ça prend souvent du temps et toute une vie ne suffit pas à être totalement transformée, mais ça vient nous transformer quand même. Une personne qui a fait l'expérience du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu, sera transformée. Et ce qui l'amènera à essayer de donner finalement le même pardon que celui qu'il a reçu de Dieu à ceux qui l'entourent. Jésus rappelle à la fin de notre passage, quand il dit « Et vous ?» que ce pardon vient du fond du cœur. Il parle de pardonner du fond du cœur son frère qui a péché, qui a fait une faute envers nous. Et quand on y réfléchit, et moi le premier, je me dis, ce n'est vraiment pas évident de pardonner mon frère ou ma sœur. Tant de fois, j'ai du mal à pardonner un frère ou une sœur dans l'Église, à pardonner par exemple une personne qui parle trop, ou qui a pu me dire des choses qui m'ont blessé, ou qui a pu faire des choses qui m'ont blessé. Souvent, des choses me restent en tête, de la rancœur. C'est pas évident de pardonner. Et il m'est difficile à terme d'avoir un vrai lien de frère et sœur avec cette personne, un lien vraiment personnel et aimant. Mais je pense que Jésus, dans ce texte, nous donne une clé pour comprendre ce pardon et pour essayer de réussir à pardonner. Peut-être que pour m'aider à pardonner, je devrais me rappeler que la clé du pardon, finalement, est d'arrêter de me concentrer sur ce que les autres m'ont fait, mais de me concentrer sur ce que Jésus a fait pour moi, sur ce pardon offert par Dieu, ce pardon que je ne mérite pas. La clé du pardon est d'arrêter de me concentrer sur ce que les autres m'ont fait, mais de me concentrer sur ce que Jésus a fait pour moi. Oui, peut-être qu'en nous décentrant nous-mêmes, en essayant en tout cas de nous décentrer nous-mêmes, et en nous concentrant sur l'œuvre de Dieu, sur cette œuvre de Dieu en Jésus qui s'est offert pour nous, nous arriverons à nous laisser être transformés par l'Esprit Saint. Et peut-être même que, par la grâce de Dieu, nous arriverons à pardonner nos frères et nos sœurs dans l'Église. Et peut-être même, plus que dans l'Église, nos frères et sœurs, les personnes qui sont autour de nous, dans le monde. Et je crois vraiment que, et c'est mon troisième point, que ce pardon entre frères et sœurs deviendra un véritable témoignage pour le monde, un témoignage de l'Église pour le monde. Jésus dit en Jean 13, 35, et Christian en a parlé la semaine dernière pour ceux qui étaient au RPO, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Quand je vois l'actualité autour de nous, je crois que le monde a besoin de ce renversement de valeurs qu'amène l'Évangile, qu'amène le royaume des cieux, qu'amène Jésus. Le monde a besoin que l'Église montre ce renversement de valeurs, ces valeurs dont le pardon, évidemment, fait partie. Il suffit d'observer ce qui s'est passé dernièrement dans les actualités, et notamment pour ceux qui ont pu suivre un peu l'actualité, le procès qui a eu lieu entre Amber Heard et Johnny Depp, deux acteurs, deux personnalités très connues. Ce procès d'un couple ultra médiatisé qui s'est déchiré au point de se retrouver au tribunal, l'un accusant l'autre de violence et l'autre l'accusant de diffamation. Quelle terrible image de l'amour et de l'absence de pardon. Alors même qu'à la suite de ce procès, et c'est sorti dernièrement, dans ces derniers jours, Amber Heard dira être toujours amoureuse de Johnny Depp. On se dit, il y a quelque chose qui marche un peu sur la tête. Évidemment, le pardon ne justifie ni la violence, ni la diffamation, mais le pardon permet d'avancer vers la liberté. Plutôt que de rester bloqué dans une logique d'endettement-remboursement. Et je pense que quand Jésus a cette dernière parole à la fin de notre texte, qu'il en sera de même pour nous si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, notre frère et sœur. Je pense que ce jugement, en fait, c'est ça, c'est de ne pas vivre cette liberté qu'offre le pardon, de ne pas vivre cette liberté de cette logique d'endettement-remboursement, de ne pas vivre et de ne pas entrer dans cette nouvelle logique d'endettement-grâce. Pour moi, c'est ça, ce jugement qui reste, en fait. Et d'un autre côté, pour revenir à notre monde actuel, j'ai pu voir, en préparant cette prédication, la vidéo d'un procès aux États-Unis où un homme a été tué par une femme, et c'est le frère de celui qui a été tué qui prend la parole et qui dit à l'accusé devant la cour, et là vous avez deux images, « Si vous êtes vraiment désolé, je le dis pour moi-même, je vous pardonne. Et si vous le demandez à Dieu, il vous pardonnera. » Et j'imagine que cette personne est chrétienne. Et quel témoignage pour la société dans laquelle nous vivons. Quel témoignage de la grâce de l'Évangile, quel témoignage du pardon de Dieu. Et ce témoignage a fonctionné parce que cette vidéo ce qui s'est passé a été relayé par de nombreux médias, en tout cas sur Internet, des médias qui sont suivis par beaucoup de monde. Oui, je veux le croire ce matin encore. Le pardon que nous nous donnons les uns aux autres, le pardon que nous nous accordons au sein de l'Église, sera visible dans la société qui nous entoure. Et tout comme ce pardon peut venir nous interroger nous-mêmes quand un frère ou une sœur nous pardonne, elle viendra questionner la société sur qui est la source finalement de ce pardon, sur qui est ce Dieu, source de pardon. Mais pour conclure, je vous propose de quand même finir en revenant sur notre village gaulois. Comme vous le savez sûrement, quand on lit les bandes dessinées d'Astérix, on voit souvent qu'il y a ces scènes de bagarre, mais on sait que ça se finit jamais par la bagarre. Au contraire, ça se finit souvent par cette scène de banquet. Les personnes du village gaulois ont vécu une aventure au moment de l'histoire de la bande dessinée qui les a amenés à vivre quelque chose ensemble et à se pardonner mutuellement les uns aux autres pour que tous finissent bien, pour que tous finissent dans la joie. Oui, le pardon amène la joie, et pour les gens qui lisent les bandes dessinées d'Astérix, en général, ce pardon qu'on voit, on voit que ça se termine comme ça, et ça vient nous impacter aussi en nous disant d'où vient cette joie. Alors, je vous propose pour cette semaine et pour la suite que, conscient de la grâce et du pardon que le Seigneur nous offre, nous apprenions individuellement, mais tous ensemble, à compter sur lui, à devenir des pardonnés qui pardonnent à leur tour. Oui, Dieu nous appelle à être des pardonnés qui pardonnent à leur tour. Et vivons vraiment ce pardon, cette grâce, dans notre quotidien, chaque jour, dans ce qu'on peut vivre. Amen. Je vous invite à un temps de silence pour méditer ce texte et ce que nous venons d'entendre.